Aujourd'hui, la masterclass de Christian Ingrao avec Anaïs Klein.
Bienvenue à tous et merci d'être avec nous pour cette masterclass de Christian Ingrao dans le cadre du Week-end Imagine organisé par France Culture et le Centre Georges Pompidou. Christian Ingrao, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de la violence nazie et de ceux qui l'ont mise en place avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Parmi vos ouvrages, je citerai « Croire et détruire, les intellectuels dans la machine de guerre SS » paru en 2010. Et en 2016, un titre provocateur, peut-être que nous y reviendrons, « La promesse de l'Est, espérance nazie et génocide ». Plus récemment, vous avez publié une conversation avec le philosophe Philippe Petit, « Les urgences d'un historien » et une tribune remarquée intitulée « Le courage de la vérité » sur la composition de la commission d'enquête mise en place par l'État sur les responsabilités françaises dans le génocide du Rwanda. Alors Christian Ingrao, pour commencer, vous frayez sans scrupule avec l'anthropologie sociale, la médecine, la psychanalyse. Pourquoi avoir choisi l'histoire ?
Parce que quand j'étais très jeune, ça fait un moment déjà, je faisais beaucoup de soirées étudiantes dans une ville qui s'appelle Clermont-Ferrand, que vous connaissez tous pas, mais c'est pas bien grave. Et un jour, on était dans une soirée où il y avait des ingénieurs, et puis on était trois ou quatre historiens. Et puis, il y a un ingénieur qui est allé voir une de mes amies qui lui a dit « Mais à quoi tu sers, toi ?» Moi, j'étais là à côté, mais je savais pas, j'aurais pas su répondre. Et elle lui a répondu en le regardant, en lui mettant 10 bons centimètres dans la tête, en lui disant « Tu sais, toi, t'existes depuis le 18e siècle. Moi, historienne, j'existe depuis le Moustérien. J'existe depuis que l'homme a inventé la tombe. Et mon métier à moi, c'est de faire le lien entre le passé et le présent, entre ceux qui étaient et qui ne sont plus, ceux qui sont désormais et les prochains, ceux qui vont arriver. » Et cette définition de l'histoire comme lien entre le passé, le présent et le futur, qui est une définition anthropologiquement religieuse, eh ben, c'est la mienne. Et donc, c'est clair qu'on gagne beaucoup moins que des ingénieurs, mais on est tellement plus utile.
Vous vous intéressez très tôt à la violence nazie, à un moment où on privilégiait plutôt les parcours de victimes que ceux des bourreaux. On sait à quel point le choix d'un objet d'étude est un choix de compagnonnage, d'obsession même peut-être. Pourquoi vous êtes consacré à cette question du mal absolu, tel qu'on l'imagine aujourd'hui ?
Alors je suis pas sûr qu'il soit absolu. En fait, je pense que c'est pas un concours, heureusement. Jusqu'à il y a très peu de temps, j'ai été persuadé que si on voulait comprendre la violence et le mal, il fallait s'intéresser à ceux qui l'opèrent et pas à ceux qui la subissent. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ces gens. Et en même temps, j'ai essayé d'avoir une démarche la moins irrationnelle possible, dirons-nous, pas beaucoup plus que ça. Hein. Quand j'ai dû choisir mes sujets de recherche, je me suis dit, le social, c'est des discours et des pratiques. Il faut que j'essaye de trouver des gens qui parlent beaucoup et qui agissent beaucoup. Et donc, ces gens qui étaient impliqués dans le génocide, mais qui avant avaient beaucoup mis en place de travail de formulation dogmatique nazie et qui ensuite basculent dans le génocide en 41, étaient pour moi l'observatoire le plus opérant en fait du national-socialisme et de ce qu'il pouvait être. C'est des gens qui à la fois essayent d'aller plus loin dans la doctrine hitlérienne et national-socialiste, et puis qui à un moment se retrouvent à tuer des enfants devant des fosses. Et le fait que ces deux aspects puissent être réunis dans une cohorte d'à peu près 80 personnes, c'était pour moi je pensais avoir trouvé un vrai observatoire de ce qu'était le nazisme.
Alors je parlais de compagnonnage, j'imagine que vous n'étiez pas très nombreux quand vous commencez à travailler sur ce sujet du nazisme, Christian Ingrao. Décrivez-nous peut-être un petit peu le milieu dans lequel vous débutez en tant que jeune historien. Est-ce que vous avez des interlocuteurs ? Et qui sont-ils et comment cela se passe-t-il peut-être au regard des autres chercheurs qui, eux, travaillent sur les victimes ?
Alors c'est une question qui fait chaud au cœur que vous me posez, Naïs, parce que en effet, quand je commence à travailler sur la question, mon maître, parce que j'ai un maître qui s'appelle Stéphane Audouin-Rouzeau, me dit, ok, je vous prends en DEA. Mais pas beaucoup plus, vous voyez, la porte est presque fermée.
Il parce me dit, que d'accord, Stéphane Audouin-Rouzeau est spécialiste de la Première Guerre mondiale.
Et puis il n'est pas germanophone, et puis il me dit, et à ce moment-là il a une phrase extraordinaire, il me dit, on ne dirige bien que ce qu'on ne connaît vraiment. Alors que, évidemment, il m'a fait faire des écarts complètement qui expliquent aussi une grande partie l'identité de ma recherche. C'est parce qu'il n'était pas spécialiste de la chose que ça a fonctionné. Mais il me prend en DEA, donc en M2 à l'heure actuelle, et puis il me dit, vous avez une année pour vous trouver un directeur de recherche. Et puis il m'explique comment il faut qu'on fasse. Et puis je fais religieusement ce qu'il m'a dit de faire. Et puis j'échoue. Il n'y a pas de spécialiste français du nazisme. Pierre-Yves Chaubéry, qui est un type qui est un professeur extraordinaire et que je connais depuis déjà un petit moment, et est à la retraite. Et donc je n'ai aucun moyen d'être dirigé en France. Et donc là, il me dit, bon, ça va, je vous garde. L'année où je suis en train de vous parler, on est en 96. Eh bien, depuis, on n'est pas une armée, mais on est un commando. Hein. Il y a Florent Braillard, il y a Nicolas Patin, il y a Johan Chapoutot. On commence à être un petit groupe hein, d'historiens du nazisme, mais à l'époque, vraiment, il n'y a personne. Et donc, c'est aussi ce qui explique la façon dont les choses se sont passées, parce que bah, comme il n'y a personne, ben, on travaille avec les gens qui s'interrogent sur des séquences, si ce n'est similaires, du moins avec lesquelles on peut bâtir des analogies. Donc, la Première Guerre mondiale, Stéphane Audouin-Rousseau, Annette Becker, Gerd Krumach, John Horn, Alan Kramer, etc., etc., d'un côté. Et puis, de l'autre, Denis Crouzet sur les guerres de religion, mais aussi les anthropologues, Elisa Clavry, Véronique Ungrap, etc. Et puis, c'est comme ça que se bâtit une armée déclopée, mais une armée quand même.
En 2010, vous publiez « Croire et détruire, les intellectuels dans la machine de guerre SS ». C'était une question qui vous interrogeait directement en tant qu'historien, en tant qu'intellectuel, d'interroger cette responsabilité des intellectuels spécifiquement dans les ravages d'une guerre.
Je pense pas m'être posé la question aussi clairement et brillamment que vous le faites, Anaïs. J'ai fait comme un fox terrier quand il est en train de chercher un terrier de renard. J'ai dit, voilà, je cherchais un endroit où observer le nazisme et je me suis aperçu qu'il y avait des gens que tout le monde refusait d'appeler des intellectuels parce que les spécialistes intellectuels de cette période-là, de Jean-François Sinirelli à Michel Trebitsch, qui était un ami, hein, de Jean-François Sinirelli à Michel Trebitsch, il fallait cocher des cases pour être des intellectuels et jamais, effectivement, il ne pouvait y avoir, avec leurs critères, d'autres d'intellectuels hors de monde démocratique. Et donc, un intellectuel fasciste, ça pouvait pas exister. Un intellectuel nazi, ça pouvait pas exister. Et ils étaient d'accord pour dire qu'il pouvait y avoir des intellectuels communistes, mais du bon côté du mur, pas de l'autre. Et donc, je me suis retrouvé, si vous voulez, à construire un questionnaire avec des gens qui disaient que je faisais pas de l'histoire des intellectuels, et puis d'autres gens qui disaient que quand même c'était une drôle d'histoire du nazisme parce que j'étais pas du côté de l'histoire de l'État, j'étais pas du côté de l'histoire des institutions et pourquoi est-ce qu'on essaierait de comprendre ce que font les nazis en 14-18, etc. C'est donc vous voyez, j'avais l'impression d'être une souris dans un troupeau d'éléphants.
Et pourtant, vous aviez un terrain parce que, de fait, des intellectuels, ou en tout cas de très hauts diplômés, il y en avait énormément dans les rangs nazis et même parmi les bras armés qui ont tué.
Oui, parce que y a un mouvement de fond qui fait que, de toute façon, si vous voulez, l'ENA n'existe pas en Allemagne, mais à la place de l'ENA, ils ont les facs de droit. Ces gens travaillent avec des juristes. On en pense qu'on en veut. Mais... si vous voulez, une espèce de flot qui nourrit en fait le fonctionnariat, qu'il soit local ou appelons ça fédéral. Hein, Weimar c'est pareil. Hein, Marie-Bénédicte Vincent Davier l'a montré. Hein, il y a comme ça une appétence de l'État pour les juristes. Et donc, au fond, c'est pas très surprenant. Qu'au sein de la police politique, de la police criminelle et plus tard. Du SD, du service de sécurité de la SS, on retrouve autant de diplômés, autant de juristes d'abord. Mais il y a une véritable différence de nature entre d'un côté ces deux polices dont je viens de vous parler, la police criminelle et la police secrète d'État, Gestapo, qui engage des gens qui d'un côté ont une culture de juridique et savent faire du droit pénal et donc enquêter, inculper et défoncer des gens. Et de l'autre, une deuxième filière, qui est une filière militante cette fois-ci. Les gens passent par le NSDAP, ou pas d'ailleurs, l'ASS, et entrent dans les services de sécurité de l'ASS. Et dans ce cas-là, vous avez non plus des juristes, mais des historiens, des philosophes, des linguistes. Il y a même des géographes, vous vous rendez compte, c'est horrible. Et etc., etc.
Et ces historiens, justement, pleinement engagés dans le nazisme, ils ne vous ont pas interrogé, justement, sur leur manière de mettre au service leurs compétences au service du nazisme?
Bah écoutez, la question est déplaisante, vous le savez, hein, au sens où j'ai essayé de décider à ce moment-là, on est en 1996, hein, j'ai aussi des excuses, hein, on est en 1996, j'ai essayé de décider à ce moment-là de ne jamais intervenir en dehors de ce que mon maître Stéphane Audouin-Rousseau appelle le premier marché, c'est-à-dire quand il y a un truc qui a lieu sur le nazisme dans l'opinion publique, je pense avoir peut-être acquis le droit de parler comme un expert, mais en ce qui concerne tout le reste, j'essaye de pas le faire. Et évidemment, j'ai totalement échoué.
Alors justement, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'historien avec cette hyper-présence de la Seconde Guerre mondiale dans les médias, dans les programmes de divertissement? J'imagine que vous êtes extrêmement sollicité, non seulement pour donner votre avis, mais aussi peut-être pour expertiser des choses très, très subtiles, de chiffres, de nuances d'engagement, de nuances de responsabilité. Et on sait à quel point les questions de responsabilité et de collaboration sont sensibles encore en France aujourd'hui à chaque diffusion de documentaires ou d'articles de journaux qui dénoncent un fait de guerre dans ce sens-là.
Bon, je vais essayer de vous faire rire. La première chose que j'ai fait, c'est d'inventer un répondeur automatique et donc d'apprendre à dire « Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Christian Ingrao, je ne suis pas là pour le moment, mais laissez-moi un message. » Ça, je sais le faire très très bien et donc dès qu'on m'appelle pour ce genre de choses, je me
vous
fais passer
faites.
pour mon répondeur. J'essaye de ne pas intervenir sur ces choses-là plus. Pour le dire plus sérieusement, après, quand des amis journalistes me demandent, écoute, qu'est-ce que tu penses de tel truc, qu'est-ce que tu veux faire de ça, quand telle personne a dit ça, etc. Quand j'ai des chiffres, je les donne. J'essaye de faire passer de l'information comme ça, mais je le fais à titre amical et pas grand-chose d'autre. Je ne veux pas intervenir dans l'espace public. Je le fais le moins possible. Vraiment. Il n'en reste pas moins que l'espace public est une sorte de champ magnétique et qu'il y a plein de moments où, qu'on le veuille ou non, on est happé par ça. Et Henri Rousseau, il a très bien montré ce genre de choses, hein, le fait que la demande sociale, elle est là et que nous, historiens du temps présent, nous ne sommes jamais seuls sur nos champs. Il y a toujours d'un côté le témoin. Hein, la personne qui au fond de la salle nous dit « Excusez-moi, j'y étais et ça s'est pas passé comme ça ». Ça, c'est un premier acteur et il est parfaitement légitime. Mais sur le nazisme, on a pratiquement toujours un juge d'instruction, un policier et un espion sur le dos aussi. Et donc, il faut toujours, sans parler du journaliste évidemment, mais lui il est plus léger que les trois autres, hein, on est toujours obligé de composer avec ces gens-là.
Donc vous composez avec ces gens-là. Et justement, peut-être sur la réception de vos ouvrages, dans La promesse de l'Est, Espérance nazie et génocide, qui est votre dernier ouvrage de chercheur, vous décentrez doublement le regard en vous consacrant à la fois au projet d'avenir formulé par les nazis, au désir d'avenir nazi d'une certaine façon, et en explorant le théâtre de guerre de l'Est de l'Europe. Autrement dit, vous faites une histoire de cette projection dans l'avenir nazi, une histoire des possibles nazis non avenus. C'est très provocateur, on l'entend même dans ce titre, La promesse de l'Est, espérance nazie et génocide. Comment cet ouvrage a-t-il été reçu ?
Ben, je sais pas comment il a été reçu, hein, honnêtement. C'est vraiment pas mon problème. C'est peut-être provocateur, mais n'empêche que on est tout un groupe, et ça aussi, ça fait du bien. On est tout un groupe à s'intéresser à ces possibles non advenus. Pierre Singer-Avelou, Quentin Lhermoz, une histoire des possibles, tous les gens qui font du contrefactuel. On s'est amusé avec Xavier Delacroix à monter un petit groupe dans lequel on a imaginé ce que serait un monde si les Allemands avaient gagné la bataille de la Marne. Qu'est-ce que c'était rigolo! Vous voyez ? Et donc la question de la discipline historienne qui veut qu'on ouvre l'horizon des possibles et de ce qui aurait pu advenir, elle est vraiment intéressante et je pense que ça fait partie des expériences de pensée que les historiens, comme les physiciens du quantique, que les historiens peuvent mettre en place. Et donc c'est comme ça qu'a commencé le livre. En fait, l'opération que j'opère à ce moment-là, il y a quand même quelqu'un qui s'appelle Philippe Cadic et qui, dans The Man of the High Castle, le maître du haut château, avait essayé bien avant. Et donc j'ai pas l'impression d'être si original que ça. Il n'en reste pas moins que, ben voilà, il y a quand même un certain nombre pas d'avancées majeures, mais de faits qui sont un peu intéressants et qui montrent que bah, les nazis auraient, ils avaient décidé qu'ils allaient tuer 13 millions de juifs parce que c'était le truc, mais à côté de ça, il y avait bien plus de gens qui devaient être exterminés. Ils étaient 27 ou 28 en tout. Donc il y avait 15 millions de Slaves qui devaient être exterminés. Et ça, il fallait faire l'enquête pour essayer de le trouver, je crois. Donc le livre est pas si inutile que ça, je crois.
Vous parliez d'originalité du questionnement. Lorsqu'on est à un chercheur français, comment se positionner face aux chercheurs allemands qui, eux, ont leurs sources, qui travaillent leur propre histoire d'une certaine façon? Face à ces chercheurs allemands, comment se passe cette cohabitation dans l'espace de la recherche pour vous?
Alors, il y a plusieurs espaces. Le premier, c'est quand on est dans les archives, on déjeune ensemble et on discute et les choses se passent bien. D'un autre côté, à part Johann Chaputo, nous n'avons pas d'existence dans le dialogue. C'est-à-dire que Johann, il commence à être lu, identifié, etc.
Vous n'existez pas dans les discussions historiques allemandes,
non,
proprement allemandes.
Non, d'abord, ils comprennent rien à ce qu'on fait, à ce que je fais moi, ça c'est clair. Les quelques discussions qu'on peut avoir, ils sont très polis, très gentils, etc. Mais vraiment, les paradigmes qui sont les leurs sont des paradigmes qui sont des ultra positivistes, ultra fonctionnels, sujet, verbe, complément, note de bas de page. Et ils ont été très occupés pendant les 20 dernières années à établir en fait un certain nombre de chronologies. Et donc, quand on commence à discuter d'histoire culturelle, d'histoire des émotions, etc., ils nous regardent avec un air à la fois de commisération et de méfiance qui montre qu'ils n'arrivent pas à écouter ce qu'on est en train de dire. Et c'est pas un problème. Hein. C'est pas un problème, mais il y a pas de véritable interlocution. Il y a quelques historiens avec lesquels ça se passe. Il y a le titulaire de la chaire, par exemple, d'histoire du national-socialisme à l'université de Berlin, qui s'appelle Michael Wildt, qui est quelqu'un avec lequel je travaille depuis 20 ans. Il y a Gerd Krumach, il y a quelques historiens comme ça. Il y a toute une petite école qui s'appelle l'histoire du quotidien, Alltagsgeschichte, avec lesquelles la discussion est très belle, etc., etc. Mais c'est essentiellement une école qui travaille soit sur la République de Weimar, soit sur la RDA, et très peu sur le national-socialisme.
C'est-à-dire on fait un saut chronologique qui enjambe et qui oublie d'une certaine façon la Seconde Guerre mondiale.
Disons plutôt que les gens qui travaillent sur la Seconde Guerre mondiale sont tellement happés par leur sujet qu'ils ont d'autres urgences que les nôtres.
Dans La Promesse de l'Est, vous continuiez aussi, à la suite d'autres, mais très rares, à affirmer l'existence et l'historicité de la Seconde Guerre mondiale à l'Est, ce qui est un sujet qui résiste encore beaucoup, c'est-à-dire qu'on est encore très focalisé sur les occupations des nations de l'Ouest de l'Europe, au premier chef la France, évidemment. Mais cela, c'est aussi une porte qui résiste d'une certaine façon à l'ouverture pour l'étude et pour la connaissance, y compris du grand public, de la Seconde Guerre mondiale et des massacres de masse.
Alors, je pense qu'il faut à la fois abonder dans votre sens et relativiser les choses. Abonder dans votre sens parce que oui, l'Est, c'est ce qui se passe à l'Est, et notamment à partir des États baltes jusqu'à l'Ukraine, en passant par la Crimée, etc. Nos capteurs sensoriels sont totalement saturés par les niveaux de violence. C'est-à-dire que quand on est confronté aux sources, on crame tout de suite. On est c'est 650 fois au Radour en Biélorussie, par exemple. Vous voyez, nous au Radour, c'est on est saisi complètement. Mais non, chez eux, c'est tous les deux jours pendant 4 ans. Et habitants compris. Enfin, les niveaux de violence sont. Je ne sais pas si vous avez lu le travail de Masha Serovic, mais elle a fait un très beau livre. Je vous le dis à tous, qui s'appelle les enfants de Staline. Enfin, il s'appelait les enfants de Joseph au départ, c'est le vrai titre. Mais le Seuil a appelé ça les enfants de Staline. C'est un livre magnifique. Mais il faut le lire pour comprendre quels sont les niveaux d'expérience qui sont en train de se faire. On y voit des gens mourir de douleur parce qu'ils ont les jambes totalement broyées. Enfin bref, c'est un livre extraordinaire. Mais c'est un livre extraordinaire parce que aussi il nous dit que ce que nous avons vécu, enfin nous, moi j'y étais pas évidemment, mais ce que les sociétés occidentales ont vécu pendant la Seconde Guerre mondiale n'a au fond pas grand-chose à voir en termes d'intensité avec ce que vivent ces opérations-là. Et il faut qu'on arrive à moduler les choses pour arriver à comprendre. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, quand une fois qu'on a réussi à remettre en place des capteurs suffisamment solides pour comprendre ce qui se passe dans la seconde guerre et du côté de l'Est, eh bien il faut arriver à faire la bascule entre l'Est et l'Ouest, et il y a très peu de gens qui y ont réussi jusqu'ici, parce que c'est difficile. Les deux grands historiens qui sont suffisamment talentueux pour le faire, c'est d'un côté Tim Snyder et de l'autre Mark Mazower. Il a essayé de faire une vraie histoire de toute l'Europe sous domination nazie. Mais ça marque, et les deux ils ont le même défaut, hein. Et Tim Snyder, il a fait une vraie histoire de tout ce qui concerne l'Est, mais il s'occupe pas beaucoup de l'Ouest. Et les deux livres, ils ont le même défaut. C'est comme du Seurat, vous voyez, le peintre, hein, pas Michel Seurat, hein, l'autre, le peintre, hein. Et donc quand t'es loin, c'est génial. Ça se passe super bien, le tableau est magnifique, etc. Et quand t'es prêt, c'est des tâches qui n'ont plus aucun lien entre l'une avec l'autre. C'est le pointillisme. Et donc, on a le même problème sur ces deux livres-là, parce que on a encore du mal à faire une synthèse et à écrire une vraie histoire de l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale.
Alors, on peut peut-être reprendre cette image du pointillisme en abordant la question des archives, puisque vos archives sont disséminées un petit peu partout en Europe, aussi bien à l'ouest qu'à l'est. Mmh. Et il me semble bien que ces archives nazies, proprement nazies, ont connu un taux de destruction gigantesque au moment de la défaite allemande.
On est à 95%,
ouais. Alors comment travaillez-vous avec cela, avec ce taux de destruction, cette si grande présence dans les mémoires, dans les publications, et en même temps cette si grande absence en termes de carburant de l'historien, Christian Grau?
C'est une chance, en fait. C'est une chance. Prenez Nicolas Wert, qui travaille sur le stalinisme. Vous voyez, lui, son vrai malheur, c'est que les staliniens ont gagné la guerre. Et donc, il est confronté à des centaines de millions de feuilles d'archives à regarder. Et donc, Nicolas, il est dans la situation d'un type qui est dans un bateau, il a l'océan Atlantique en face de lui, et puis il jette tous les jours...
Son petit hameçon.
10 fois par jour, son petit hameçon, et puis... rendez-vous au sable. Quand est-ce qu'on trouve? Il a réussi à trouver l'ordre 447, celui qui nous dit que l'ordre 447 qui nous dit pour la grande terreur, il y a un ordre qui précise que l'approche meurtrière de la grande terreur est statistique, c'est-à-dire qu'il faut en tuer tant de pourcents. Mais il aurait pu ne jamais le trouver. Hein, le fond du premier secrétaire du parti communiste de l'Union soviétique, hein, le fond de Staline, il fait des milliers de cartons. Il n'aurait pu jamais le trouver. Nous, historiens du nazisme, on est dans la situation d'un historien du haut Moyen-Âge. Tu veux travailler sur Charlemagne, et ben t'es dans la même situation que quand tu travailles sur Hitler. En gros, une vie de chercheur, on a à peu près 50 années d'existence de cerveau, hein, pas beaucoup plus, hein, et même moins pour moi. Donc, en 50 ans, on a une petite chance de voir à peu près toutes les archives, à peu près toutes. Et il faut pas mollir, hein, il faut y aller. Hein. Nous, on a une chance de voir toutes les archives et de dire je peux faire la chose. Ça me rappelle un dialogue entre Bloch et Fèvre, qui font écrire un volume de l'évolution de l'humanité par Neuhof. Et Neuhof leur dit, oui d'accord, je veux bien écrire votre volume, mais je voudrais revoir toutes les archives. Et donc c'est dû au Moyen-Âge, le mec il peut dire qu'il revoit toutes les archives. Moi je pourrais pas dire que je revois toutes les archives, mais je peux dire à quelqu'un, quand je veux pas lui écrire un livre, je peux lui dire, écoutez, je vous le rends dans 20 ans, j'aurai tout vu. Alors que Nicolas Wert, il est absolument pas crédible, même s'il voulait dire qu'il voit simplement les archives de Staline, quoi.
Visiblement, vous écartez tous les écueils de votre métier, toutes les difficultés. Pour autant, qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre tâche, dans votre métier et peut-être dans votre champ, dans vos objets de recherche, Christian Ingrao?
Vous savez, il y a un truc que je dis quand même, c'est qu'on est loin de la mine et des wagonnets. Hein. On a un métier qui est super simple et super facile. On a des raisons de le faire. Jamais on perd la cohérence des trucs. On sait pourquoi. Enfin, en tout cas, moi, je sais pourquoi je le fais. Je suis chargé de recherche, enfin, directeur de recherche au CNRS, et ça va, c'est bon. Je peux travailler de chez moi. On me compte pas les vacances, les machins, les trucs, les bidules. Je vais quand je veux à l'étranger, archiver. J'ai une liberté totale. Et donc, j'ai du mal à trouver ce qui est difficile dans mon métier. Après, il y a des moments où il y a un coup psychique à travailler sur le génocide. Ça, c'est vrai. Mais ce coup psychique, j'ai décidé de le payer et j'ai aucun état d'âme à avoir des petits bouts de mon psychisme se cramer un peu tous les jours parce que je travaille sur tel hôpital qui a été brûlé et puis ben il y avait un petit mot en allemand que j'ai pas compris, c'est Nebst. Hein, dans lequel tel hôpital, l'archive, elle disait, c'est une archive de la Gestapo, elle disait tel hôpital est à mettre à incendier, Nebst, l'équipe médicale. Et puis, ben comme un idiot, moi j'ai pensé que Nebst, ça veut dire mais accepter. Et puis j'étais en train de regarder, c'était il y a longtemps, hein, mes gamins étaient petits et je les regarde en train de jouer et puis je me dis putain Nebst, je sais pas ce que ça veut dire. Va regarder dans le dico et puis je regarde, ça veut dire y compris. Évidemment. Et là, bim, évidemment, tout le côté, la dimension transgressive de ce type de choses te revient dans la figure. Mais bon, je veux dire, c'est quand même moins grave que la silicose du mineur, le cancer des ouvriers qui étaient à Jussieu dans les années 80, etc., etc. Ça va, on va pas en faire un fromage non plus, quoi.
Alors, j'ai fait une petite enquête de proximité. Il me semble que vous travaillez énormément chez vous. Vous parliez de vos enfants.
Yep.
Vous travaillez dans votre cuisine,
oui.
Christian Ingrao. Est-ce que le choix de ce lieu, très familier, très, très prosaïque, est important justement dans ce contexte de coup psychique dû au choix de votre objet de recherche?
Ça n'a pas été une décision que j'ai prise comme ça. Au départ, j'ai pas eu le choix. C'est-à-dire que quand j'étais en train d'écrire ma thèse, etc., j'avais deux, puis trois, et maintenant quatre, mômes qui étaient toujours dans mes pattes et qui, et donc, si je voulais écrire quelque chose, il fallait que j'arrive à écrire avec des hurlements de gamins et des repas à faire, etc., etc. Donc, au départ, c'est une contrainte. Mais vous connaissez Pierre Chenu, c'est lui qui a inventé la question de l'invention en phase B, et donc j'ai inventé à ce moment-là. La phase B, vous savez peut-être pas, mais c'est quand on fait l'histoire économique, il y a un grand récit des conjonctures économiques qui passe par des trends, donc des tendances séculaires. Donc ça commence par une phase A, ça monte, et puis une phase B, ça descend. Quand la phase B, c'est la phase B, ben c'est la merde, et on est obligé, si vous voulez, de faire avec des conjonctures économiques qui sont hyper difficiles. Mais ce que montrent les historiens, c'est que les sociétés, notamment occidentales, inventent en phase B. C'est là où elles sont les plus ingénieuses, où elles se mettent à trouver les innovations les plus fines, les plus difficiles, etc., etc. Et puis après, elles les exploitent quand ça remonte en phase A. Et ben moi, c'est pareil, à part que c'était pas une phase B aussi difficile que les sociétés européennes. On est bien d'accord, on n'est pas en 1348. Mais moi, j'ai été obligé de trouver des moyens d'apprendre à travailler quand j'avais des mômes qui me hurlaient dans les oreilles, que le téléphone était en train de sonner, que le bœuf bourguignon devait être mis en place, etc., etc. Et puis, bah, écrire au milieu de tout ça, c'était... voilà. Donc, ça a fini. Maintenant, les enfants sont plus grands, ils sont moins embêtants. Un peu moins. Mais voilà, je travaille toujours autour de ma table parce que... il y a quand même un énorme avantage, c'est qu'on est dans son univers et on se nourrit à la fois de ce qu'on est en train de faire, de notre bibliographie, de nos archives, et puis de l'énergie des gens qui nous sont familiers.
Vous avez participé il y a quelques années à la série documentaire Jusqu'au dernier, La destruction des Juifs d'Europe, de William Carrel et Blanche Finker, avec de nombreux autres historiens, dont Johann Chapoutot, dont vous parliez tout à l'heure. Au visionnage de cette série, on avait le sentiment d'un consensus entre vous tous. Cette histoire et la façon de la faire aujourd'hui, c'est déjà une histoire apaisée. Est-ce qu'on peut ne pas être d'accord? Est-ce qu'on peut se permettre la controverse savante sur la Shoah aujourd'hui?
Alors, c'est une excellente question, mais je me rappelle plus quelle année c'est, en fait. Vous vous rappelez, Anaïs?
C'était il y a 3-4 ans.
Il y a 3-4 ans. Donc, moi, je pense qu'à cette époque-là, jusqu'en 2004-2005, il y a des controverses, je dirais pas majeures, mais des controverses importantes sur la question du génocide. Et l'une des controverses les plus importantes, c'est quel est le statut du génocide. Et ce statut du génocide, il passe par la question de sa datation. Vous avez d'un côté de plus en plus d'historiens qui vous disent la question de la décision de principe de tuer tous les juifs d'Europe se prend en décembre 1941 quand le conflit devient mondial. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, les Allemands s'aperçoivent que les Allemands, c'est Hitler. Hein, ici, c'est Hitler et les nazis. Les Allemands s'aperçoivent que, ben voilà, ils sont mal barrés, qu'il y a une guerre longue qui est en train de se mettre en place, qu'ils ont tout prévu pour que la guerre soit pas longue. Et que donc cet ennemi qu'ils identifient derrière derrière les Alliés doit payer. D'un autre côté, vous aviez avant un des historiens les plus talentueux qui a été dans cette période, s'appelle Christopher Browning, hein, qui a écrit le 101e bataillon des hommes ordinaires. Hein, vous devez peut-être que certains d'entre vous connaissent, c'est un livre génial. Hein, et Chris Browning. Il fait une autre hypothèse, il nous dit non, en fait le génocide il a été décidé en juillet 1941 au moment où les nazis se disent c'est open bar, on est en train de gagner, on l'a gagné, on va vaincre l'URSS et c'est parce qu'on va vaincre l'URSS qu'il faut tuer les juifs pour bâtir cet empire millénaire qui est notre rêve. Et donc il y a une discussion. Ces gens sont très corrects et très polis. Il y a une discussion entre d'un côté Chris Browning et de l'autre Gerlard, etc., etc. Avec malgré tout, si vous voulez, un décalage. Hein. Chris Browning, il est tout seul ou pratiquement tout seul à nous dire ça. De l'autre côté, vous avez Christian Gerlard, vous avez Dieter Paul, vous avez Florent Braillard, et on a tous fini en fait par accepter l'hypothèse de décembre 41 pour la décision de principe d'examination de tous les Juifs d'Europe, et puis une dernière décision en juin 42, qui est une décision d'un génocide en un an. Et donc, ce que reflète le documentaire de Blanche et William, c'est le fait que bon an mal an, on a tous fini par dire à Chris, écoute, bon, ton livre est génial, mais on préfère l'autre.
Comment trouvez-vous l'idée de vos prochains livres ? Le précédent vous donne l'idée du suivant. Vous avez un tiroir empli de livres en devenir sous la forme de dossiers d'archives. Comment cela se passe-t-il, Christian Ingrao ?
Alors, j'ai un tas d'or. Vous avez raison de le dire. J'ai 50 classeurs remplis d'archives nazies que j'ai chopé en 15 ans. Mais ce tas d'or commence à trouver ses limites, et donc je pense qu'il va falloir que je retourne chasser un peu de l'archive ces prochaines années. J'ai pas encore commencé parce que je suis en train de terminer un bouquin là que j'ai construit notamment avec ce tas d'or, mais je sais déjà que il y a 5 questions qui m'obsèdent depuis maintenant un an et demi, et je sais que une de ces 5 questions sera mon prochain livre. Et donc je laisse suspendu les choses, et puis si Dieu me prête vie et que le travail se passe de la façon que j'imagine, le 30 juin j'aurai terminé tout ça, et donc j'aurai un mois de juillet, un mois d'août où je pourrais faire plouf plouf un petit cochon pendu au plafond entre les 5 enquêtes et voir laquelle j'ai envie de faire.
D'ailleurs, comment trouvez-vous la forme de vos livres ? Parce que dans « Croire et détruire », on suivait finalement dans une course folle les SS à l'assaut de l'Est. Dans « L'espérance de l'Est », c'était quasiment une exposition universelle du désir d'avenir nazi. Comment l'idée naît de la forme et comment vous l'élaborez ? Est-ce qu'éventuellement, d'ailleurs, peut-être, elle peut précéder la recherche documentaire, c'est-à-dire sur une intuition, vous donner un cadre qui ensuite va être ampli par une recherche documentaire, une recherche d'archives.
Dans tous les livres, de toute façon, on se pose toujours la question, à un moment, il y a toujours 3 ou 4 chapitres où tu es là, j'ai pas les moyens de ma politique. Et donc, il faut aller, il faut retourner dans les archives, il faut retourner voir si tu as les moyens de prouver ce que tu es en train de faire. Et puis, il y a plein de moments où tu les as pas. Et donc, t'es obligé d'abandonner. Mais il y a aussi d'autres moments où t'es là, t'as fait une hypothèse, et puis t'es dans les archives, et puis bim, t'as le truc qui tombe. Et là, c'est juste génial. Je pense que c'est la vraie héroïne de l'historien. C'est quand tu trouves l'archive qui dit que t'as raison. On a tous un problème avec le fait d'avoir raison, hein, je crois. Enfin, moi particulièrement, mais on a tous un problème avec ça. Et quand l'archive, elle nous dit que on a raison. C'est une drogue absolue, ça c'est clair. Et donc, oui, en effet, là, je vous dis, j'ai en gros cinq possibilités d'enquête. Ça ne veut pas dire un livre, mais j'ai cinq possibilités d'enquête. Et je vais voir laquelle m'amuse le plus à la fin de l'été. Voilà.
Est-ce que cela a été une question pour vous de réfléchir à la façon dont on pouvait écrire sur des atrocités telles que celles commises par l'armée, par la SS nazie, notamment à l'Est, mais également à l'Ouest, mais en ce qui vous concerne, c'est plutôt l'Est que vous explorez. Voilà, de quelle manière écrire, trouver les mots pour dire l'histoire que vous aviez élaborée sur des sujets aussi terribles d'une certaine façon, Christian Ingrao.
Ça c'est vraiment une question qui est une question transversale, je dirais. C'est-à-dire que depuis que j'ai passé le temps de l'enquête et que je suis dans le temps de l'écriture, j'ai toujours un problème avec les niveaux d'intensité de violence sur lesquels je travaille. C'est ce que, avec Stéphane Audouin-Rouzon, on appelait la béance maxillaire. Béance, c'est maxillaire, c'est les mâchoires. Hein, donc ça veut dire que très souvent, quand malheureusement on est amené à travailler sur la question des pratiques de violence des Einsatzgruppen, les gens qu'on a en face de nous sont complètement sidérés par ce qu'on fait. Ils ont la bouche grande ouverte. Et l'enjeu, en fait, d'une écriture de cette histoire-là, c'est d'arriver à manier ce matériau-là en amenant les gens à être encore capables, hein, encore en position, non pas de d'ouvrir grand la bouche en étant sidéré, mais en continuant à pouvoir réfléchir. Et c'est une vraie question. Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce que ces textes aussi intrusif, aussi intrusif, qui qu'on utilise. Comment est-ce qu'on fait pour les citer, les accompagner? Est-ce qu'on prépare les gens avant? Est-ce qu'on leur balance le texte comme ça? Puis après, on essaye de retrouver les gens, etc. Ça fait 20 ans que je fais ça et j'ai toujours pas de solution définitive. Mais je sais que c'est quelque chose sur lequel je travaille. Après. Je pense aussi qu'on est à la veille, à l'heure actuelle, d'une véritable révolution de la formulation historique. On est à la veille d'une révolution de la formulation historique et il va falloir que nous, historiens, mais pas tout seuls, on n'a aucune chance tout seul. Il faut qu'on se mette à travailler sur la façon dont on présente les choses, dont on les livre, dont on les médiatise, etc., etc. D'abord, il y a une révolution langagière à mettre en place. C'est-à-dire que pour ne citer que, les poètes sont en train de révolutionner la langue depuis maintenant 20 ans. Il est temps que nous prenions en charge, comme les physiciens du quantique prennent en charge les mathématiques telles qu'elles se mettent en place depuis un siècle, avec la révolution hilbertienne et la théorie des ensembles, ils ont appris à travailler avec d'autres maths. Nous, il faut qu'on apprenne à travailler avec d'autres langages. Et donc ça, il va falloir qu'on s'y mette. On est plusieurs à y penser. On n'est pas beaucoup, mais on est plusieurs à y penser. Et il va falloir qu'on apprenne à le faire. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est il y a une révolution des formes qui est en train d'apparaître. Je vous cache pas, on en est tous là. On a tous des ordinateurs, Facebook, machin, truc, bidule chouette. Nous ne savons pas encore mettre en place appelons ça des artefacts de transmission de l'histoire. Ça aussi, il faut qu'on le mette en place. Le travail, il est immense. Il faut qu'on arrive. Mais pour l'instant, on a tellement plus de questions que de réponses que, comme disent Bernanos, nous sommes nuls sous le regard de Dieu.
Et vous avez déjà été tenté par un travail de fiction, sous forme d'écriture ou sous d'autres formes d'ailleurs, Christian Ingrao ?
Oui. J'ai écrit un texte, mais ça sera le seul et le dernier sans doute, mais j'ai écrit un texte qui s'appelle « Est-ce que ça va faire mal ?» et qui est un texte que j'ai joué sur scène à Blois il y a quelques années. Et j'étais très frustré parce que mon premier travail, il s'appelle donc « Croire et détruire », c'est un travail sur des intellectuels SS qui finissent par tuer des enfants dans des fosses en Ukraine, mais qui commencent par eux-mêmes être enfants. Et j'ai pas assez de sources pour décrire ce qui leur est arrivé quand ils étaient enfants. Ce que je sais, c'est très impressionniste. Et donc, j'ai jamais pu, et je peux toujours pas, de façon historienne, affirmer quel a été le monde de leur enfance. Et donc, un jour, j'ai été tellement frustré que j'ai décidé d'écrire un texte dans lequel Je me suis dit que j'étais nouvelliste, on va dire novelist en anglais, mais ça veut dire romancier, mais auteur de nouvelles, et où je prends un des plus grands criminels sur lesquels j'ai travaillé, qui s'appelle Hermann Behrens, hein, qui finit chef de la suprême de la police des SS en Serbie, et cet homme est tué en décembre 48, il est exécuté à Belgrade, et donc bah là il a un capuchon sur la tête, il a un nœud autour de la il a un nœud coulant autour du cou, donc la journée va mal se terminer pour lui, il faut le dire, hein. Et au moment où la trappe s'ouvre et dans moins d'une seconde, il va avoir la nuque brisée par la chute et la corde. Et ben, il revit sa vie. Et c'est ce texte que j'ai essayé d'écrire. Et je l'ai vécu comme une vraie aventure stylistique. C'est-à-dire que quand on en est dans sa position, il me semble, même si je l'ai pas vécu, que on n'a pas de temps à perdre. Et donc, chaque phrase doit être une phrase de plomb. Elle doit être d'une densité de comme un pulsar, vous voyez, ces étoiles qui se sont effondrées et qui sont des millions de fois plus denses que notre soleil. Et donc j'ai essayé d'écrire ce texte-là, ce qui était à la fois une aventure stylistique et puis une aventure historienne, parce que j'avais des choses à dire sur l'angoisse de l'enfance d'un nazi, et voilà.
Et vous pensez recommencer ?
Jamais.
Pourquoi ?
Bah parce que c'est pas mon travail. Moi, je suis historien, je fais des phrases, mais pour raconter des histoires, pas pour en inventer.
Alors, tout à l'heure, vous nous parliez de votre maître, celui que vous appelez votre maître, Stéphane Audouin-Rouzeau. Et justement, ce maître historien, à quel moment vous êtes-vous senti son égal, dans une certaine mesure ? À quel moment vous êtes-vous senti historien ? Et là, je parle peut-être de rituels, moins évidents que la soutenance d'une thèse, de rencontres ou d'associations, peut-être.
À mon avis, et à mon sens, il y a trois questions dans la vôtre. La première, c'est quand est-ce qu'on se sent historien? Moi, je pense que je suis devenu historien le jour où ma maman a pas levé son éponge quand je lui ai annoncé que mon meilleur ami s'était suicidé, j'avais 15 ans. Ce jour-là, j'ai compris qu'il y avait un problème avec la mort et que ce problème, je ne le résoudrais qu'en faisant l'histoire. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, à partir de ce moment-là, je le savais pas, mais je pense que c'est à ce moment-là posé pour la première fois la dimension existentielle du travail que j'ai la chance de faire tout de suite. La deuxième question, c'est la question des rituels. Bah voilà, si vous voulez, en 95, je suis devenu agrégé d'histoire et c'est un rituel aussi stupide que tous les autres rituels. C'est à la fois, si tu l'as pas, tu l'as pas.
Et quand c'est un concours d'enseignement, c'est pas un concours de chercheur.
Oui, c'est un concours d'enseignement, mais on sait très bien que si on n'a pas ce concours-là, quand on fait l'histoire contemporaine comme moi, on n'a plus aucune chance d'être historien. On n'a plus aucune chance de devenir maître de conférence ou chargé de recherche de CNRS. Et donc, mon papa l'a pas eu. Mon père est matheux, il a jamais eu l'agrégation, et donc ce jour-là, on m'a dit que j'étais agrégé, j'ai fait une accolade à mon père et j'ai su que je pouvais continuer l'aventure. Et pour la première fois, l'environnement social m'a dit que on savait pas ce que j'allais devenir, mais j'avais le droit de continuer. Après, la soutenance de thèse et l'habilitation, c'est des souvenirs assez mitigés pour le premier et très bons pour le deuxième, mais qui n'ont au fond aucune importance. Le troisième niveau de langage, c'est ce qui concerne mon maître et le fait d'être son égal. Je ne suis pas et ne serai jamais son égal. Mon maître, c'est mon maître, et quand il parle, j'obéis. Il y a un jour où j'étais directeur de l'IHTP, de l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Ça m'est arrivé parce que j'ai eu quelques petits accidents dans mon existence personnelle, et je suis devenu directeur de l'IHTP. Puis jusqu'à un certain moment, quand j'avais un problème. C'est quand j'étais en master ou en doctorat, quand je venais le voir, j'allais le voir quand j'avais un problème. Et puis un jour, j'ai un problème en tant que directeur d'IHTP, je vais le voir. Et là, mon maître m'a dit, écoutez, vous vous démerdez là. Et là, ce jour-là, je me suis senti seul comme rarement dans ma vie, mais j'ai compris que, il fallait que je devienne un grand garçon.
Alors, on l'a bien compris, le cœur de vos recherches concerne la Seconde Guerre mondiale.
Oui.
Mais récemment, vous êtes davantage intéressé aux années 70 aussi. Quel lien y a-t-il entre l'émergence de cette violence de masse, cette violence nazie dans les années 30 et 40, et l'année 1979 spécifiquement sur laquelle vous travaillez ?
Je crois pas qu'il y ait de... C'est une bonne question, parce que la question que vous posez, c'est la question qu'a précisément posée le Board of Referees, hein, les comités d'évaluation de l'ERC, en me disant que je ne pouvais pas diriger ce machin-là, et que un historien de nazisme, c'était un historien de nazisme, qu'un historien des années 80, c'est un historien des années 80, et il faut que les vaches soient bien gardées. Et donc, on m'a refusé la grande enquête le financement de la grande enquête que j'étais en train de montrer.
Ce qui ne vous empêchera pas de vous y coller, j'imagine.
Ouais, ouais, mais bon, le faire tout seul, c'est pas très drôle quand même. Hein. Là, on avait besoin de 2 500 000 euros, vous voyez. Je vais envoyer mes mômes trafiquer de la drogue devant les lycées de la région parisienne, mais je pense pas qu'on aura les 2 500 000 euros rapidement.
Hein. On ne le souhaite pas.
Hein. Et donc, le truc, c'est que il y a un lien dans l'approche épistémologique. C'est-à-dire que l'histoire que nous essayons de faire est une histoire sociale et culturelle de l'expérience des individus et des groupes sociaux. C'est cette histoire que j'ai essayé de faire sur le nazisme, une histoire qui passe par l'historicisation notamment des émotions, des attentes, des ferveurs, des angoisses, des horizons d'attente. Et je pense que il y a une sorte de déplacement des moyens de la recherche que j'ai essayé d'opérer avec mes petits moyens à moi, que j'ai essayé d'opérer entre ce qui s'est passé entre 1914 et 1948-49, le translater, les moyens, pas plus que ça, les moyens de la recherche sur ce qui se passe entre, me semble-t-il, les années 70 et les années 80, où j'ai émis l'hypothèse, je suis pas le seul maintenant, on est un groupe, on est 20 personnes quand même maintenant à avoir choisi de suivre cette hypothèse, dans laquelle on dit... la crise que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle avec Daesh et cet immense événement qu'a été la reproclamation du califat sur ces terres du Cham, etc. Eh bien, c'est le point culminant et le paroxysme d'une crise qui a commencé bien avant, qui commence dans les années 70 et qui voit les horizons de temporalité et les espérances de trois grands systèmes politiques entrer en crise. Ces trois grands systèmes politiques qui sont nés soit de la fin de la Seconde Guerre mondiale, soit de la fin de la décolonisation. Et ce sont les démocraties libérales d'un côté, les démocraties populaires en second lieu, et en troisième lieu, les régimes nationalistes et socialistes du Moyen-Orient, régime arabe et Israël compris égyptien. Et donc, quelque chose s'est passé dans les années 70 et qui fait que ces gens avaient bâti leur régime sur une promesse qui était faite aux populations qui disait « Nous allons bâtir un avenir désirable. Nous allons bâtir d'un côté le socialisme et le communisme pour les pays d'Europe de l'Est, pour les autres la société de consommation et une sorte de prospérité heureuse, et pour les pays nationalistes et socialistes, eh bien la nouvelle société qui ferait suite à la colonisation, hein, on le voit très bien en Algérie. Dans les années 70, cette espérance, elle meurt. Les régimes ne meurent pas. Les régimes continuent à fonctionner comme un canard qu'on décapite. Vous avez déjà vu, pour certains, vous avez déjà vu un canard, tu lui coupes la tête et il continue à marcher, cet idiot, il ne sait pas qu'il est mort. Eh ben, c'est un peu ce qui se passe pour tous ces régimes-là. Et en 79, on voit apparaître deux états de fait. 79 n'a pas de puissance explicative. 79 est un observatoire. 79, on voit apparaître deux choses. Un, la crise des sociétés, elle devient absolument manifeste et partout. Et en second lieu, on voit apparaître ce qui est le corollaire de la crise, parce que ni la nature ni le social n'aiment le vide. Et donc, à la place de ces systèmes d'espérance laïque et incarnés dans le futur, nous avons la réémergence de systèmes qui sont des systèmes de l'au-delà et qui disent non, hein, le bonheur de l'humanité ne se situera pas dans le futur et dans l'ici-bas, mais dans l'au-delà, sous le regard de Dieu. Et là, on voit apparaître les deux. D'un côté, on a, le deuxième choc pétrolier, 15,3% d'inflation en France, Thatcher qui arrive au pouvoir en Angleterre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le début, la fondation de Solidarnosc et les premières grèves des chantiers Lénine à Gdansk. Est-ce que j'ai besoin de vous parler de l'Afghanistan et du fait que les forces de l'athéisme sont en train d'envahir l'Afghanistan, et donc vous avez un vrai mouvement de croisade qui se met en place vers l'Afghan. D'un autre côté, c'est le premier attentat qui se met en place de fondamentalistes musulmans à Alep, à l'école d'artillerie, contre contre des caciques du régime socialiste Baas. Vous avez la prise de la grande mosquée de la Mecque par des millénaristes sunnites qui veulent renverser le régime des Saouds. Vous avez évidemment la révolution iranienne, et j'ai besoin de le dire. Et puis c'est la même année où Ayman al-Zawahiri, le numéro 2 d'Al-Qaïda, passe des frères musulmans au djihad islamique. Bref, à ce moment-là, on a une espèce de d'observatoire de ce que nous sommes en train de vivre, qui est absolument extraordinaire, et ça, c'est le point de départ d'une belle enquête.
À venir, on vous le souhaite.
À venir.
D'ailleurs, vous avez publié un dialogue récemment avec le philosophe Philippe Petit intitulé « Les urgences d'un historien ». Est-ce que ce nouveau chantier de recherche fait partie de vos urgences, Christian Ingrao ?
Oui, je dirais ça. Je ne serai jamais un historien des années 70 et 80. J'ai besoin que ça dise nous ici. J'ai besoin de gens qui parlent l'arabe. J'ai besoin de gens qui parlent de persan, qui parlent. Moi, j'ai le vocabulaire d'un chimpanzé en russe et en polonais. Il faut des gens qui parlent les langues et qui ont l'acuité du regard, une acuité que je ne peux pas avoir tout seul. Et donc, pour moi, cette aventure est une aventure qui est en gros collective. Et donc, ça fait partie de mes chantiers, mais j'ai besoin de gens. J'ai besoin d'être dans un collectif. Voilà. Et donc, oui, ça en fait partie, mais bon, je suis un historien du nazisme et de la guerre. De la guerre, en gros, de 1914 à maintenant. Voilà, je peux à peu près travailler sur tous ces trucs-là, avec des bonheurs divers, mais je peux. Mais cette enquête-là, oui, fait partie de mes urgences.
Alors peut-être que jusque-là, on vous imaginait un peu seul dans votre cuisine au milieu de votre tas d'archives. Là, ce que l'on entend, c'est que cette nécessité du collectif, d'une certaine façon, c'est la condition sine qua non pour progresser dans sa discipline.
On n'est jamais tout seul. Jamais. Encore une fois, quand on fait l'histoire du temps présent, de toute façon, qu'on le veuille ou non, on n'est jamais tout seul. Il y a toujours un flic, un juge et un espion qui sont en train de lire les archives en même temps que toi. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, quand même, les historiens du nazisme, on doit être, oh, je sais pas, 1500 ou 2000 sur la planète. Et donc, on a toujours du monde dans la boucle. Hein. Donc, il y a toujours des nous qui se mettent en place. Mais après, entre ces nous qu'on subit un peu quand même, eh ben, il y a aussi les nous qu'on choisit. Et moi, j'ai la chance d'avoir quand même, malgré tout, pu intégrer un certain nombre de collectifs. Hein. J'ai d'abord été formé au Centre Marc Bloch à Berlin, collectif d'historiens de l'Allemagne, je veux dire, et qui a été un lieu merveilleux de formation. Ensuite, ben, j'ai été d'abord chercheur puis directeur de l'Institut d'Histoire du Temps Présent, qui a aussi été un collectif dans lequel je me suis senti vraiment dans un collectif et vraiment avec des gens qui je dis pas qu'ils me lisaient, faut quand même pas déconner, mais qui avec lesquels je pouvais réfléchir et penser. Et puis depuis, je suis toujours à l'Institut d'Histoire du Temps Présent, mais dans cette cuisine dont vous parlez, ben se sont développées des sociabilités qui font que j'ai un séminaire d'histoire du paroxysme avec Quentin Lelermoz et Hervé Mazurel. J'ai fait un séminaire d'histoire de l'occupation avec Nathalie Moine, Nicolas Beaupré. Enfin bref, il y a plein de collectifs comme ça. L'homme n'est pas une île, mais on est une archipel. Ça doit être un archipel. Ça dit nous tout le temps. Non pas non, mais nous.
Alors il y a un autre collectif, je crois que vous avez terminé maintenant, mais vous avez choisi de participer à une entreprise très controversée.
Ah, l'enfer.
Celle de la réédition de Mein Kampf. Considéré généralement comme donc le texte fondateur dans la formulation des projets d'Adolf Hitler, évidemment. Pourquoi cette entreprise était-elle nécessaire pour vous ?
Mais moi, j'ai jamais dit que c'était nécessaire.
Ah, si.
Ah, non. Non, 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 non. Vous vous trompez, Anaïs. J'étais contre au départ. J'avais pas envie de le faire, j'avais pas envie de me lancer dans ce labyrinthe, parce que c'est vraiment un labyrinthe, Mein Kampf, c'est vraiment des milliers de pages. Et quand tu rentres dedans, tu rentres dans un labyrinthe, c'est-à-dire que ton horizon est rétréci, et t'as l'impression de repasser toujours par le même endroit, et tu sais jamais si tu vas trouver la sortie. C'est vraiment pénible. Il est obsessionnel, labyrinthique, et on est obligé à la fois de rentrer dedans et puis d'essayer de tirer la personne que possiblement on pourrait avoir avec nous, c'est-à-dire le futur lecteur, pour l'amener dehors.
Mais alors pourquoi l'avoir fait ?
Mais oui, c'est bien ce que je vous dis, j'ai fait une énorme bêtise. Là, une énorme bêtise, c'est que j'étais contre et j'avais dit non à tout le monde. Et puis un jour, Jean-Luc Mélenchon a sorti un papier qui était un peu désespérant et j'ai perdu mes nerfs. Et j'ai écrit un papier que j'ai donné à un de mes copains qui s'appelle Joanny Fnagel, qui était directeur de Libération, qui s'est empressé de le publier. Et donc, voilà, il y a, je sais pas, 10 ou 15 000 personnes qui ont lu ce papier. Et donc, les gens qui étaient responsables de l'édition de Mein Kampf ont venu me dire, bah, maintenant, tu peux plus faire autrement, t'es obligé de venir travailler avec nous. Et puis, ils avaient raison. Et donc, c'est sur cette bêtise-là que je me suis retrouvé dans cette aventure. On est une quinzaine à l'avoir fait. On a travaillé de la façon la plus, vous voyez, j'ai fait une bêtise, mais n'empêche que à la fin, on a quand même énormément travaillé. On était une quinzaine, on a fait des groupes de 3 personnes. Ces 3 personnes relisaient la traduction qui avait été faite par Olivier Mannoni, qui est une traduction. Et nous, ce qu'on voulait, c'était pas une traduction, c'était une transcription. C'est-à-dire, on voulait prendre du mauvais allemand que Mannoni avait transformé en du bon français, et on voulait rendre du mauvais français. Et donc, on a repris toute la trad.
C'est-à-dire rendre le mauvais allemand d'Adolf Hitler.
Le mauvais allemand d'Adolf Hitler, c'est l'horreur. Je vous promets, c'est plein de répétitions, c'est vraiment labyrinthique, etc. Et donc, on l'a retransformé en mauvais français. Après, quand on avait retransformé tous en mauvais français, on faisait une réunion à 3 personnes et on mettait en place une version définitive du texte. Où est-ce qu'on est d'accord, où est-ce qu'on n'est pas d'accord, et on discute, et on établit le texte. Puis après, on s'est occupé des notes de bas de page, et là, on est à la fin des introductions. Et si on ne sait pas tirer une balle dans la tête avant, ça devrait être fini d'ici décembre.
Et qu'est-ce que vous en espérez de la sortie de ce livret, justement? Rien. Si ça n'était pas nécessaire, pourquoi cela avait un intérêt de le faire?
Le seul intérêt de le faire, c'est de faire que, disons, un lecteur cultivé et intéressé comme Jean-Luc Mélenchon arrête de raconter des bêtises et pense que quand on touche au livre, on a une petite moustache et une frange qui nous pousse et qu'on devient nazi. C'est faux. Quand tu regardes le livre, ben voilà, tu regardes le livre, tu lis le premier chapitre, le deuxième chapitre, tu lis l'introduction, et le troisième chapitre, tu le refermes. Point. Et donc là, c'est pareil. Ça sera un livre qui va faire 2000 pages. Personne va le lire. Beaucoup de gens vont l'acheter, j'espère. Enfin, en fait, je m'en fiche. Donc il y a plein de gens qui vont l'acheter, mais personne va le lire. Et c'est très bien comme ça. Voilà.
Alors, nous approchons de la fin de cet entretien, Christian Ingrao. Est-ce que vous avez envie de donner un conseil à ceux ou à celles qui voudraient devenir historien?
Le seul conseil que je peux donner pour devenir historien, pourquoi je donnerais un conseil à des gens qui veulent devenir historien? J'ai pas de raison de le faire. La seule chose, c'est devenir historien de l'Europe, devenir historien de la France, c'est devenu vraiment difficile. Hein, parce que ils sont tellement nombreux, les historiens de la France, que c'est très difficile de trouver un truc intéressant à faire. Historien de l'Europe, c'est devenu très compliqué. Et donc, il faut aller chercher le vaste monde. Il faut aller chercher les 800 millions de locuteurs qui parlent arabe. Il faut aller chercher les 1 milliard 200 millions de personnes qui parlent le mandarin. Il faut aller s'intéresser à l'Inde, etc., etc. Là où les hommes sont nombreux, là est l'histoire. C'est la seule chose que je pourrais dire. Et c'est un conseil qu'évidemment, moi, je parle que des langues européennes. Hein, vous voyez, j'ai aucun mérite à faire ce que je fais. Mais moi, je pense que l'avenir de l'empirie historienne, pas plus que ça, l'avenir de l'empirie historienne, il est dans les mondes extra-européens.
Merci beaucoup, Christian Ingrao.
C'est moi qui vous remercie.
C'était la masterclass de Christian Ingrao avec Anaïs Klein. Attaché de production Nathalie Lempereur, coordination Arnaud Laporte, réalisation Clotilde Pivin.